au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez dans l'autre hémisphère, dans le cadre des émissions que Canal Académie consacre à Marguerite Yourcenar, élue à l'Académie française le 6 mars 1980, il y a tout juste 30 ans. J'ai le plaisir de recevoir une femme écrivain de notoriété, originaire d'Argentine, Sylvia Baron-Supervielle, qui a correspondu 7 années durant avec Marguerite Yourcenar. Cette correspondance Marguerite Yourcenar-Sylvia Baron-Supervielle, intitulée « Une reconstitution passionnelle », est publiée en ce début d'année 2010 chez Gallimard. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Merci d'être venue jusqu'au studio de Canal Académie pour vous présenter. Peut-on commencer par dire que vous êtes non seulement un écrivain et un poète reconnu, on vous doit une 20aine d'ouvrages publiés en français, mais que vous êtes aussi la traductrice en espagnol de la poésie et du théâtre de Marguerite Yourcenar. Avez-vous traduit beaucoup d'œuvres du français vers l'espagnol ?
Non, c'est la seule œuvre que j'ai traduite du français à l'espagnol. J'ai fait beaucoup de traductions de poètes de mon pays, de l'Argentine surtout, en français. Et d'ailleurs, c'est très étrange, pourquoi est-ce qu'on a ce désir de traduire. Mais elle, c'est le seul écrivain que j'ai traduit
dans l'autre sens. Alors, comment a commencé cette œuvre de traduction ? Est-ce un hasard ? Est-ce une recherche personnelle ?
Je crois que lorsqu'on a envie de traduire, on a le désir de traduire, c'est parce qu'on aime beaucoup l'œuvre de quelqu'un et qu'on la suit. Donc, c'était mon cas pour Marguerite Yourcenar. J'avais lu ses livres et j'étais très passionnée de son écriture. Et un jour, par hasard, j'ai découvert des revues, des vieilles revues, ce qui s'appelait le manuscrit autographe, où elle avait publié des poèmes. Et ça, ça m'a beaucoup étonnée et surpris parce que je ne savais pas qu'elle écrivait des poèmes. Donc j'ai acheté ses revues et là j'ai découvert une série de poèmes, des sonnets, et j'ai été très frappée par le romanticisme, la tristesse aussi, parce que c'était des poèmes pour une morte, ça s'appelait comme ça. Et naturellement, j'ai eu envie de la traduire, d'abord parce que j'adore traduire de la poésie, et ensuite parce que aussi la traduction c'est comme un remerciement.
C'est joli,
de
ce oui.
de ce qu'on a reçu. Je l'ai traduit, mais sans penser pas une seconde qu'elle allait me répondre. Et même à ce moment-là, que j'allais envoyer ses poèmes. J'ai donc traduit ces 6 poèmes et je les ai envoyés chez Gallimard, qui les a envoyés à son tour à
Marguerite Yourcenar. Et en tant que traductrice, vous avez rencontré des difficultés pour la traduire ou au contraire, est-ce que son style est très facile à traduire ?
Très, très facile.
Très facile.
Parce que comme tout grand écrivain, elle emploie naturellement beaucoup le rythme et les accents. Et c'est une très grande facilité pour un autre écrivain qui a la même méthode de suivre dans sa prose ou dans sa poésie le rythme, parce qu'on ajuste le sien à l'autre. Plus que la langue, on ajuste ce rythme de façon à retrouver l'auteur dans la nouvelle langue. Pour moi, c'est ce qui est essentiel. Et j'ai retrouvé le rythme de Marguerite Yourcenar très facilement avec ses poèmes. D'ailleurs, elle avait bien ses rimes et c'était des sonnets. Donc, je me suis amusée un petit peu à faire ces sonnets parce que, bon, ce n'était pas du tout mon genre de poésie. Et j'avais écrit des sonnets en Argentine, en espagnol, mais je ne savais plus du tout comment les faire. Après, mais je me suis remise. Mais elle, c'était un petit peu comme des sonnets, je dois dire, un petit peu du 19e. Mais ça ne fait rien, parce qu'elle n'a pas écrit que ça. Alors, le poids de son œuvre est derrière, et de toute façon, c'était très beau.
Vous avez présenté cet ouvrage donc, de correspondance que vous avez tenu avec Marguerite Yourcenar avec un long avant-propos qui est évidemment extrêmement intéressant à lire puisqu'il nous explique dans quelles conditions vous avez travaillé avec elle. Et page 10 de cet avant-propos, vous dites « Traduire pour moi est une nécessité propre à la musique et à la poésie qui me détache de la réalité ». Dans la solitude du travail personnel, la lame de la passion est redoublée et partagée. Donc vous avez vraiment une démarche de traduction. C'est autre chose que de traduire des mots, c'est véritablement...
Tout à fait,
oui.
Tout à fait. Et ce qui est très beau, c'est qu'on est deux.
Oui.
Et on se repose de soi seul. Parfois, c'est très fatigant d'être tout le temps avec soi. Et lorsqu'on est deux, c'est très beau parce qu'on avance ensemble, on s'adapte à l'autre. Et puis l'autre vous fait aussi, vient vers vous aussi. Il y a des façons différentes de l'apprivoiser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est donner dans la nouvelle langue l'auteur. C'est l'auteur, je veux qu'on entende la voix de l'auteur. Moi, je ne sais pas si j'ai réussi dans le cas de Marguerite Yourcenar.
Je crois qu'elle était assez contente, si j'ai bien compris, pour dire que vous aviez réussi. Elle-même, d'ailleurs, était une grande traductrice, on l'oublie quelquefois. Elle ne parlait pas l'anglais, enfin, elle ne voulait pas s'exprimer en anglais. Évidemment, elle le parlait, mais elle ne voulait pas s'exprimer comme cela. Mais elle a beaucoup traduit d'œuvres anglaises aussi.
Oui, oui. Elle a traduit Virginia Woolf, elle a traduit des Grecs, elle a traduit
Henry James,
les Negros spirituels aussi.
Oui, elle a beaucoup traduit. Alors revenons à cette correspondance. Combien de lettres avez-vous échangé avec elle? Quand cela a-t-il commencé?
Ce qui m'a, et ça m'étonne tous les jours, c'est que maintenant j'arrive peu à peu à l'âge où on s'est connus. Je rejette, à cause de la fatigue du travail, des choses qui m'attendent, des textes qui m'attendent, que j'ai promis, des préfaces, des choses comme ça. Je rejette toute personne qui veut prendre un petit moment avec moi ou me montrer des traductions qu'on a faites de moi. Et ça m'est arrivé dernièrement. Mais elle, je suis tout à fait à chaque fois plus étonnée et émerveillée que lorsque je lui ai envoyé ses poèmes traduits. Je crois qu'elle n'a pas pris plus d'une semaine pour me répondre. Une lettre longue, enthousiaste, que je ne demandais pas tellement, je veux dire, de richesse dans sa lettre. Elle me dit déjà, dès la première lettre, je crois que c'est une des plus belles du livre, tout ce qu'elle pense de la traduction d'auteurs argentins qu'elle a connus. De...
Ce n'est pas une lettre de politesse ni de convenance.
Pas du tout. Dès cette première lettre,
voilà.
Et je crois qu'en total, depuis que j'ai envoyé ses poèmes, chez son éditeur, et au moment où elle m'a répondu, il ne s'est pas passé plus de 15 jours. Je crois que c'est le maximum. Et c'est ça qui a donné une très grande impulsion. C'est cette lettre première à la relation que j'ai eue avec elle après.
Alors, il faut dire qu'à l'époque de cette première lettre, elle a 77 ans. Elle est évidemment,
oui,
à cet âge-là, un écrivain très connu, au sommet de la gloire. Et vous, vous êtes une jeune traductrice,
oui,
et une jeune poète,
oui,
aussi.
Oui.
Vous étiez intimidée, je
complètement
suppose.
Complètement inconnue, enfin, parce que vous savez, maintenant j'écris des proses aussi. Mais c'était, je changeais de langue, j'ai changé de l'espagnol au français. Donc, je commençais ma poésie avec des poèmes très brefs aussi, parce que j'avais très peur de la langue française. Et j'étais complètement inconnue, c'est pour ça encore. Et en plus, on pourrait dire que peut-être mon nom lui disait quelque chose par rapport à Jules Supervielle. Elle ne le connaissait pas.
Et vous étiez parente avec Jules Supervielle?
Oui,
vous
c'était un cousin. Oui, un cousin de ma grand-mère.
Ah, très bien.
Mais elle ne le connaissait pas parce qu'après, elle a demandé les livres chez Gallimard parce que quelqu'un lui a parlé.
Ah oui, donc ça n'est pas pour votre nom qu'elle
non,
vous a...
Voilà. Donc vraiment, c'était une impulsion où elle a été touchée parce que ses poèmes lui étaient chers.
Dites-moi, comment était son écriture quand elle vous écrivait? Enfin, c'est une écriture petite ou c'est une écriture large? Quelle était la forme de ça, son écriture?
Large, grasse plutôt, et assez ronde. Pas une écriture aiguë, pas une écriture qu'on pourrait dire très belle, mais j'ai le souvenir comme ça, une écriture un peu grasse et généreuse.
Généreuse, oui.
Disons, un peu enfant encore. Un peu enfantine, c'est étrange, mais j'ai
cette sensation,
oui.
Et est-ce qu'à votre connaissance, elle écrivait à heure fixe dans la journée? Elle avait une discipline pour répondre à son courrier, non, par
oui,
exemple?
Oui, bon, elle répondait à son courrier le matin, mais ce qui me frappait, c'est qu'ensuite, tout le long de la journée, elle écrivait. Elle avait des cahiers un peu partout. On parlait un petit peu, et puis elle se levait, et elle allait s'asseoir au jardin où il y avait une petite table, où elle avait un carnet, elle l'ouvrait. Elle écrivait deux ou trois pages. Moi, je savais déjà, donc je la laissais, bien sûr. Et puis, elle revenait me parler un petit moment ou faire un tour dans le jardin. Et ensuite, elle repartait à son bureau où elle avait encore des carnets. Et dans la cuisine, elle avait aussi. Donc, et elle reprenait, comme si elle reprenait le fil où son esprit travaillait continuellement. Continuellement, même quand elle vous parlait, même quand elle regardait les oiseaux qu'elle adorait, ou les arbres, ou son chien qu'elle adorait, continuellement, son esprit, il y avait comme une autre chambre dans son esprit, mettons, qui était derrière la chambre de ses yeux. Et dans cette chambre, elle continuait à écrire et elle se disait, tiens, dans ce cahier, je peux ajouter ça. Et c'est pour ça que tout d'un coup, elle coupait et elle repartait. Et ce qu'elle avait pensé, qu'il fallait continuer comme ça, elle l'écrivait vite pour ne pas l'oublier. Sylvia, et elle ne corrigeait jamais.
Oui. Sylvia Baron-Supervielle, on comprend que donc vous avez connu Marguerite Yourcenar. Au bout d'un moment, après avoir échangé quelques lettres, elle vous a invité à Petite Plaisance aux États-Unis, où on sait qu'elle habitait. Quel souvenir avez-vous de ce séjour ? Vous êtes resté longtemps ? Vous avez passé quand même une ou deux semaines ?
15 jours. Elle m'a invité pour 15 jours. Mais un souvenir, je veux dire, lumineux. Non, parce que d'abord, le lieu, il y a une lumière très belle. C'est un lieu qui est près de la mer. Et il y a une espèce d'humidité dans l'air. C'est une lumière très belle. Et puis, elle était entourée d'arbres, les érables, vous savez, qui sont lumineux aussi, les oiseaux. Elle, avec ses yeux bleus, très lumineux aussi. Je ne peux pas dire que ça a été facile au début, parce que moi, je l'avais vue deux fois. Et je tremblais de peur, comme tout le monde.
Vous écrivez « Son personnage m'impressionnait, mais je connaissais ses livres. Il n'était pas commode, néanmoins, de maintenir son naturel devant cette apparence marmoréenne qu'elle affichait et qui s'opposait à son regard attentif et lumineux. C'était une femme imposante. »
Très imposante.
Vous étiez intimidée.
J'étais très intimidée, mais je ne sais pas pourquoi. Je crois que les êtres d'exception vous mettent à l'aise aussi. Bon, là, il n'y avait pas deux alternatives. Il fallait que je sois à l'aise et complètement naturelle et dire vraiment ce que je pensais sur tout, ou alors partir, parce que nous étions seuls dans cette maison. Le matin, il y avait la secrétaire, mais ensuite, elle partait. Et vraiment, dans l'après-midi, la soirée, nous étions seuls. Et puis, je ne sais pas, en connaissant ses livres, c'est vrai, on connaît sa générosité envers les autres aussi, et sa perspicacité. Et je me suis dit, elle va me connaître. Donc, je dois être exactement comme je le suis. Ça m'a donné une
pas
force.
Tricher.
Non,
vous
pas tricher.
Pas tricher avec
ni
elle.
Ni pas une minute représenter quelque chose, ni
être vrai.
Être vrai complètement vrai. Je ne dois pas faire beaucoup, très difficile pour moi de l'être, parce que je le suis assez naturellement. Mais là, c'était impératif. Et donc, un calme m'a pénétré une fois que j'ai compris ça. Et après ça, je me sentais capable de lui dire tout ce que je pensais, ce que je ressentais sur un auteur. Enfin,
l'échange a pu s'établir.
Oui.
Voilà,
oui.
Un vrai
parce
échange.
Que je me suis, même si je me trompe, même si ça ne lui plaît pas, mais je vais être vraie sans la choquer, bien sûr. Non. Et quand j'ai compris ça dès le premier soir, j'ai ressenti un grand calme et je crois que l'échange profond s'est très très bien passé entre nous.
Avec Sylvia Baron-Supervielle, nous évoquons sa correspondance avec Marguerite Yourcenar. Je vous propose de marquer une très courte pause musicale avant de nous retrouver tout de suite dans notre studio. Sylvia Baron-Supervielle, Marguerite Yourcenar, quand vous la connaissez, c'est un personnage très célèbre. Elle est très célèbre à Paris. Et vous, là-bas, à Petite Plaisance, vous découvrez une femme très seule. Comment c'est possible ce décalage entre ces deux aspects d'elle-même ?
Ce qui m'étonnait, c'est que les contacts qu'elle avait ici en France et en Europe ne suivaient pas là-bas. C'est-à-dire, personne ne lui téléphonait, même son éditeur, mais personne, le téléphone ne sonnait. Pas du tout, du tout, du tout. Ce qui la suivait, c'était la correspondance. Il y avait des paniers de lettres qui arrivaient. Mais pour le reste, une fois qu'elle avait terminé de regarder ses lettres et de les partager, l'étrier, ce qu'elle allait répondre et ce qu'elle n'allait pas répondre. À part ça, je crois que les gens avaient un peu peur d'elle. Et ensuite, qu'elle n'avait pas fait d'autres amis là-bas.
Mais dans la population locale, elle était acceptée par les gens. C'est une petite ville, je suppose.
Et c'est une petite ville assez élégante, de gens qui ont de l'argent, qui ont des grandes maisons, qui ont des bateaux, qui viennent les chercher au bord de la mer, qui ont de l'argent. Et elle était dans une toute petite maison en bois, au milieu de jardins immenses avec des mansions. Je ne sais pas comment cette petite maison s'est trouvée là, au milieu de toutes ces grandes maisons. Elle n'avait aucun lien avec tous ces gens. Et elle me disait, pour s'amuser un petit peu, elle me disait par exemple, ça c'est la maison de Rockefeller, comme ça. Mais donc, elle connaissait le jardinier de Rockefeller qui venait lui apporter quelque chose ou des gâteaux, ou savoir tout simplement comment elle allait. Et tous ces gens-là, elle m'a raconté, venaient beaucoup lorsque son amie Grace Frick, qui était sa traductrice en anglais, est tombée malade. Et elle a été malade très longtemps. Et bien que tous ces gens qui travaillaient, les domestiques, disons, de ces grands propriétaires, venaient la voir, venaient l'aider, venaient avoir des nouvelles de Grace Frick. Et lorsque Grace Frick l'a quittée, venait ensuite la voir elle. Et ça, j'ai aimé
c'est
énormément.
Très révélateur.
C'est très révélateur.
De la relation qu'elle avait avec les êtres,
oui.
Certainement. C'est une femme en exil, Marguerite Yourcenar. Vous-même, Sylvia Baron-Supervielle, vous avez choisi de vivre en France. C'est un exil aussi?
C'est très difficile si j'ai choisi ou pas choisi. Je pense plutôt que la France m'a choisi, la langue française. Parce que dès que j'ai commencé à écrire en français, et je l'ai fait, je pense, un petit peu pour m'enraciner, parce que j'étais séparée des miens et de tout, enfin de ma famille, de mes amis. Et cette langue française m'a donc choisie et m'a un peu obligée. Je l'ai fait de bon cœur, de rester. Et je resterai toute ma vie maintenant. Mais je ne peux pas dire que je suis complètement française. Je pense qu'elle ressentait la même chose.
Vous avez aussi, dans cet échange de correspondance, on note une évolution, évidemment. C'est l'évolution entre laquelle elle vous appelle « chère madame », ça c'est au début, et puis après « chère Sylvia ». Vous deviez être touchée de cette familiarité qu'elle développe petit à petit avec, envers
oui,
vous.
Oui, elle restait toujours très distante dans les formes. Mais on sent bien lorsque... Elle vous fait confiance et soi-même, on fait confiance. Et donc, je ne me suis même pas rendu compte quand elle a changé. C'est Hachmi Allais qui m'a fait la remarque.
Voilà.
Elle avait changé de chère madame.
Hachmi Allais, c'est l'actuel directeur de la Villa Yourcenar, oui. Dans le nord de la France. Et c'est lui qui vous a encouragé,
oui.
À publier ses lettres. Pourquoi,
oui.
Ne souhaitiez-vous pas les publier? Vous n'y aviez pas pensé?
Je n'y avais pas pensé. Et je les avais là. Et puis, je m'étais dit, je vais les laisser à la bibliothèque, où je ne savais pas très bien... Je ne voulais pas non plus, je ne sais pas, elle m'était très chère. Et puis, c'était comme des messages, plutôt. Je ne pensais pas du tout qu'elles avaient un grand intérêt. On pense toujours aux correspondances des grands écrivains qui révèlent énormément de choses sur l'écriture ou sur d'autres écrivains, sur l'époque politique, etc., que j'ai lu après, et d'autres correspondants. Celle-là, non, c'était une correspondance simplement d'amitié, d'affection.
Oui, mais justement, elle révèle le côté très... humain, chaleureux, généreux de Marguerite Yourcenar,
oui.
Ça n'est pas rien.
Non. Mais Hachmi Allais a vu les lettres parce qu'il me les a demandées à lire. Et puis, il m'a dit, est-ce que je peux en faire des photocopies? Et puis, les choses se sont passées comme ça.
D'ailleurs, Hachmi Allais écrit à la page 99 du livre, puisque c'est à la fin que lui s'exprime, « On devine à la lecture des lettres, à leur ton amical et souvent enthousiaste, que Marguerite Yourcenar a été séduite par le talent de traductrice et la personnalité attachante et généreuse de sa correspondante, c'est-à-dire vous, Sylvia Baron, super bien.
Je
ne
sais pas.
Vous partagez ce point de vue?
Oui, mais ça me flatte énormément. Mais ce que moi, je peux dire, c'est que la générosité venait tout à fait d'elle et que ce qui m'est arrivé est une chose tout à fait extraordinaire parce que je n'étais pas journaliste. Et puis d'habitude, elle était traduite dans toutes les langues. Donc, elle avait l'occasion de connaître beaucoup de traducteurs, de traductrices. Est-ce qu'elle tenait beaucoup à ses poèmes? Je pense que oui. Je pense qu'elle aurait voulu être poète, mais elle l'était pour moi. Et cette définition de la poésie et la prose de séparer les choses ainsi, je ne le comprends pas très bien. Je pense qu'elle l'était parce qu'elle l'était avec sa passion, elle l'était avec la manière dont elle emploie les mots, avec les situations des personnages. Elle était, je crois, profondément poète, mais elle n'avait pas fait une œuvre de poésie. Elle avait écrit quelques poèmes, un petit livre, Les Charités d'Alcippe. Et toujours, je pense qu'elle a eu un peu le regret. Elle ne me l'a pas dit, je le devine. Et que je sois tombée sur ses poèmes, je pense que c'était la première fois que quelqu'un traduisait sa poésie. Et même, elle n'était pas encore éditée à Paris. Après, le petit livre est paru chez Gallimard. Mais c'était dans des revues. Donc, je crois que ça l'a un peu, disons, bouleversée ou ébranlée, comme ça. Et c'est pour ça qu'elle a voulu me connaître, je crois.
Et vous le faisiez, au fond, sans arrière-pensée. Elle a dû déceler aussi votre générosité à vous.
Ah, aucune.
De le faire pour le plaisir et non pas parce que vous aviez une commande d'éditeur, ni
non,
rien.
Non, non, mais en plus, moi, je commençais. J'aurais jamais eu l'idée, ni me serait pas venu à l'idée de lui demander quoi que ce soit. Je ne sais pas. C'était sur un autre plan. C'était un tel plaisir pour moi d'être là, de la connaître mieux. Je me souviens qu'un jour, elle m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça, la maison, et vos droits d'auteur, tout ça. Elle m'a dit, je vais les laisser aux animaux.
C'est ce qu'elle a fait ?
Les oiseaux. Alors j'étais un peu interdite, mais à chaque fois que j'étais interdite, je lui disais, mais madame, vous ne croyez pas qu'il y a des gens âgés, des enfants ? Ah non, pour cela, il y a d'autres personnes, elle m'a dit. Mais moi, je suis plus amie aujourd'hui des animaux que de l'homme parce que je suis déçue par lui. Tout le temps, elle disait des choses comme ça qui m'étonnaient et qui en même temps me ravissaient parce qu'elle avait fait un très grand parcours, elle savait tout non, de l'homme. Et je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais je crois que les droits d'auteur, oui, je crois que, bon, il y a la fondation de Petite Plaisance de sa maison et aussi il y a des oiseaux et d'autres animaux.
Sylvia Baron-Supervielle, merci de nous avoir fait partager cette amitié que vous avez vécue avec Marguerite Yourcenar et que l'on retrouve dans cette correspondance qui est parue donc chez Gallimard et qui s'intitule « Une reconstitution passionnelle ». Merci madame et j'espère qu'on vous retrouvera dans une autre émission pour parler de votre œuvre à vous, certainement.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.